Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Maël Lepilouer, il est secrétaire fédéral des jeunes socialistes costa-armoricains, il est en charge des idées et des événements, il est également secrétaire par intérim de la section de Guingamp-Paimpol, il est avec nous en direct ce matin, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, bonjour.
Bonjour Stéphane Hamon, bonjour à toute l'équipe.
Alors on va parler de politique, alors je sais c'est dur le vendredi matin après Christophe Hamon de se concentrer pour parler de choses sérieuses, mais on est aujourd'hui dans une situation qui est en voie, allez, j'allais presque dire de normalisation. On a enfin un Premier ministre, un gouvernement que l'on devrait connaître dans le courant de la semaine prochaine, si l'on en croit en tout cas les propos de Michel Barnier. Après une longue attente, hein, on en a parlé ici sur cette antenne, de cette longue attente avant la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre. Est-ce que finalement tout va bien ?
J'ai presque envie de vous répondre avec une citation du général de Gaulle, hein. Rassurez-vous, je ne vais pas mal, mais il y a eu le 9 juin dernier. Mmh. Il y a eu des élections européennes avec une vague Rassemblement National énorme qui a failli tout emporter sur son passage. Même, on peut dire qu'il a emporté la logique présidentielle puisqu'on a eu un monarque qui, soi-disant, aurait cassé son jouet et a décidé de le remplacer, c'est-à-dire convoquer de nouvelles élections législatives pour avoir une nouvelle Assemblée nationale. Des députés donc élus, réélus, dans les Côtes d'Armor, c'est globalement ce qui s'est passé. Faut aussi souligner qu'il y a eu une union qui est arrivée en tête, l'Union des Gauches, le nouveau Front Populaire, qui a été porté dans le département, en Bretagne, en France. Normalement, si on en suit la logique républicaine, le nouveau Front Populaire aurait dû arriver au gouvernement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Emmanuel Macron et son gouvernement sortant ont préféré la magouille politicienne avec les néo-gaullistes fracturés. On va les appeler comme cela. Général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe à Colombey. On dit qu'il y a eu d'ailleurs... le lendemain de la nomination de Michel Barnier, un grand mouvement de tonnerre dans le cimetière de Colombey, avec des bruits de bois sous le marbre, une croix de Lorraine qui serait même peut-être tombée. Enfin, après, ce sont des rumeurs, je ne suis pas allé les vérifier moi-même. Mais non, la situation est dramatique. J'entendais encore ce matin une interview du président de la République qui disait « Oui, non mais... il va falloir apprendre le consensus. Oui, mais le consensus, une partie des Français y était favorable. Leur choix n'a pas été respecté. Et il n'y a pas que les électeurs de gauche qui le disent. Des électeurs macronistes, des électeurs LR le disent aussi. Effectivement, le nouveau Front Populaire aurait dû être en position de gouverner. Nous avions Lucie Castet, qui faisait l'unanimité à gauche. Elle avait un programme basé sur... une refonte totale des services publics, ce qu'il faut absolument faire dans notre pays, et de plusieurs autres mesures. On aura l'occasion d'en reparler. Mais à la place, le président de la République nous a sorti Michel Barnier, qui, tel Guillaume Tell, est descendu de ses montagnes, la pomme à la main, pour venir prêcher la bonne parole. Enfin, hier... réunis autour du lac en Savoie, ça devait aller. Les LR qui, depuis 12 ans, n'avaient pas gouverné, c'était un certain François F, le dernier qui avait occupé Matignon. Donc, ils vont revenir au gouvernement.
C'est un gouvernement de droite, finalement.
Il faut s'attendre à avoir un gouvernement de droite, un gouvernement LR qui n'a plus rien à voir avec le parti de Jacques Chirac, qui s'est complètement fourvoyé dans l'idéologie nationaliste qui était déjà portée par Nicolas Sarkozy dès 2017 et avec des discours sur l'immigration qui sont inimaginables quand on est un minimum universaliste. Voilà, c'est ce qui va poser problème. Et finalement, le constat qu'on peut faire, c'est que le micro-parti qui est devenu LR depuis la scission et l'affaire Ciotti va être en position de gouverner. Et on murmure aussi que Valérie Pécresse pourrait être dans ce gouvernement. Donc finalement, on a un parti qui n'a pas fait, qui a fait son pire score aux élections présidentielles depuis 1962, son pire score aux élections législatives depuis 1958, qui va être en position de gouverner alors qu'il ne représente quasiment plus rien.
On dit qu'il y aurait une ouverture à gauche possible, en tout cas c'est ce que Michel Barnier a laissé entendre lors de ses consultations qui se poursuivent. C'est une bonne idée cette ouverture à gauche ou c'est juste un effet d'annonce ?
C'est un effet d'annonce puisque les partis de gauche ont été unanimes sur cette proposition. Il est inimaginable de voir aujourd'hui des socialistes, des communistes, des insoumis, des verts, des gens de chez Génération gouverner avec les Républicains. Il faut quand même se rappeler que les Républicains au moment où c'était l'UMP, c'était les adversaires de gauche. Qui ne se souvient pas des débats à l'Assemblée nationale entre François Hollande et Jean-Louis Debré ou entre Jean-Marc Ayrault et Jean-Louis Debré, les différents premiers ministres, Raffarin, De Villepin. Il faut se souvenir de cette histoire-là aussi. Et un gouvernement de coalition ne peut pas exister. Nous ne sommes plus ni sous la Troisième ni sous la Quatrième République. Ce n'est la culture du compromis, certes, mais pas avec des micro-partis, pas avec des logiques, pas avec des combines à la petite semaine où on fait des comptes d'apothicaire. Ça, non.
On a parlé beaucoup de démocratie lors de ces élections, alors européennes déjà, puis après la dissolution des législatives. Et puis il y a eu les votes à l'Assemblée pour le choix des présidents de commission. Est-ce qu'il fallait confier des commissions au Rassemblement National qui a réuni, bon an mal an, plus de 10 millions de personnes sous ses voix ?
La question se pose. Moi, je sais que pour ma part, ce sont des logiques, logiques comptables qui ont amené le Rassemblement National à présider des commissions, enfin à avoir des rôles importants dans les commissions. Si effectivement, on ne peut plus parler de majorité présidentielle, mais les groupes présidentiels voulaient dès le départ, avoir une action de compromis avec la majorité à l'Assemblée nationale, il fallait s'allier avec les députés du Nouveau Front Populaire. Il fallait trouver des compromis, effectivement. Hein. C'était largement possible, mais ça n'a pas été le cas. On l'a vu dès la réélection de Yael Braun-Pivet. LR et les macronistes marchaient main dans la main. Mais ça prouve bien qu'il y a un effet de connivence entre ces deux partis et que finalement, les transfuges qu'il y a pu avoir dès 2017 entre Gérald Darmanin ou encore Bruno Le Maire, ces phénomènes de passage du centre-droit à la droite conservatrice, les passerelles existent encore. Donc ça pose aussi la question de savoir quel est le lien entre ces deux partis.
Il fallait changer la donne, en tout cas c'est ce qu'on entendait à gauche, hein, dans le Nouveau Front Populaire. Aujourd'hui la donne semble ne pas avoir changé, en tout cas si l'on vous écoute et si l'on constate le paysage politique aujourd'hui et la situation politique. Il y a eu ce message adressé par les Français qui sont allés nombreux aux urnes, hein. C'était assez notable de constater qu'on a eu moins d'abstention en tout cas que ce qui était prévu. Il y a eu un message adressé, message à l'extrême droite, message à gauche. Est-ce que le président de la République, pour vous, n'a pas entendu ce message, n'a pas compris la France, ou les Français en tout cas ?
Pour qu'il comprenne la France, il faudrait qu'il ait déjà un minimum de culture. Et ça, la culture politique, il ne l'a pas. Dès 2017, ça s'est complètement vu. Il voulait rénover, on se souvient de Mozart de la finance, je vais dépasser les partis. Ça, on ne l'a pas vu. Mmh. Ça, on ne l'a absolument pas vu. Et sinon, en 2022, il faut aussi rappeler qu'il n'y avait pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale, et le gouvernement Emmanuel Macron, par le gouvernement qu'il a nommé, a continué à foncer droit dans le mur. Mmh. Et on en paye aujourd'hui les conséquences. Voilà, vous avez dit en introduction, moi je suis secrétaire de la section socialiste par intérim de Guingamp-Paimpol. J'ai mené la campagne des élections européennes, j'ai mené la campagne des élections législatives au nom du Parti Socialiste pour le Nouveau Front Populaire sur ces territoires. Mais c'est catastrophique ce qui nous arrive. C'est tout bonnement inimaginable. On a un hôpital public qui est en train de mourir à petit feu, victime du en même temps. Voilà.
On a vu la mobilisation d'ailleurs dans le Trégor et à Guingamp pour sauver l'hôpital.
Hein. Oui. Il y a une décision de l'ARS qui va être rendue cet après-midi qui devrait normalement expliquer que l'hôpital serait en partie reconstruit sur site, mais avec un budget qui est quand même absolument plus petit que celui qui était prévu en 2013. On perd 50 000 euros d'après les chiffres que j'ai pu avoir. On passe de 130 millions à 80 millions. Pour un hôpital public de plein exercice, qui est défendu par le président de Guingamp-Papeol Agglomération, par le maire et de Guingamp et par les maires des environs, c'est un hôpital de plein exercice. Et ce qui est proposé tout bonnement par la Macronie et ses substituts locaux, on a bien vu dans la campagne législative de Cyril Joby qui proposait une reconstruction en alliance avec les différents maires du coin, c'était une politique de « en même temps ». C'était « oui, mais voyez, on arrive à garder l'hôpital ». Ben non, mais c'est l'hôpital entier qu'il faut réussir à garder, c'est ses services entiers, c'est pas une seule partie seulement. Et aujourd'hui, les maires payent cette carence de l'État. Hier, il y a 13 maires qui étaient convoqués devant le tribunal administratif de Rennes. Je suis allé pour apporter un soutien tout à fait normal, tout à fait républicain à ces maires qui étaient convoqués à propos du fameux arrêté santé qu'ils ont pu prendre. Ils ont été assignés au tribunal par le préfet. Le préfet, qui représente l'État, assigne les brancardiers de la République, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, parce que malheureusement, ils sont complètement dénués. J'ai pu discuter avec certains d'entre eux qui sont à bout, qui sont complètement lessivés, qui n'en peuvent plus de ces carences. Et dans quel monde vit-on? Et s'il n'y avait que la question de l'hôpital, il y a la question de l'accessibilité aux services publics. Effectivement, mais les services publics dans une grande largesse. Et finalement, quand on regarde les votes pour le Rassemblement national aux élections européennes, au premier tour et au second tour, on constate que effectivement, ce sont dans des zones qui sont délaissées au niveau des services publics, où l'État n'investit plus, où les collectivités territoriales, que ce soit le département, que ce soit les communautés de communes, que ce soit les communes, tentent, bon an mal an, de compenser ces carences. Et malheureusement, elles en arrivent à faire des choix compliqués, mais qui se comprennent sur le long terme. C'est par exemple fermer des services publics comme fermer un collège pour éviter justement que au final ça soit deux autres collèges qui puissent fermer. Ce sont des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, mais la gauche démontre, en tout cas pour le département, qu'elle a cette conscience républicaine, qu'elle a cette conscience du territoire et qu'il faut maintenir le plus possible les services publics en état de marche, quitte des fois à faire des coupes qui sont dommageables effectivement, mais qui sont entièrement compréhensibles. Et là, moi, je tire mon chapeau et franchement, je renouvelle mon soutien publiquement à ces élus qui se battent au quotidien pour leurs administrés.
On les entend, on entend une forme de colère des élus de terrain, particulièrement après les propos qui ont été tenus par Bruno Le Maire, qui a plus ou moins pointé du doigt les collectivités locales en disant « elles sont dépensières, on va voir un budget qui va être encore amputé de 16 milliards d'euros, il faudrait faire des économies ». La réponse de berger à la bergère, si vous me permettez le terme, ce sont les présidents d'intercommunalités ou encore de régions qui ont répondu que, bien ma foi, on leur donnait de plus en plus de responsabilités, on augmentait le périmètre de leurs interventions sans finalement donner de moyens. Est-ce que là aussi il y a des interrogations à avoir sur les moyens de l'État vis-à-vis des régions qui ont de plus en plus de compétences, mais sans pouvoir finalement les exercer ou pas bien?
Oui, effectivement, il faut se poser cette question-là, mais aussi une question préalable en introduction au problème qu'il faut se poser, c'est où est passé l'argent qui était destiné aux collectivités territoriales? Dans les cabinets de conseil, tout bonnement, parce qu'on a un gouvernement qui ne savait pas gérer.
On ne sait plus faire de politique, finalement. On demande conseil à des cabinets privés. On ne fait plus de politique comme on pouvait le faire jusqu'à présent. Enfin, en tout cas, il y a encore quelques années. Avoir une vision à long terme, parfois, pour la France, pour les régions, pour les territoires.
Je dirais que ça dépend des partis, ça dépend de la culture politique. Si on regarde Ensemble pour nos territoires, Renaissance, En Marche, enfin, tous les toponymes qu'a pu avoir cette soi-disant ce soi-disant rêve macroniste, et finalement quand on regarde, ce sont des parvenus. Mmh. C'est un petit peu, moi j'ai tendance à les comparer, et la comparaison se fait de plus en plus grande au fur et à mesure qu'on avance. Je les compare un petit peu à ces notables qui se sont ralliés à Napoléon III au début du Second Empire, c'est-à-dire ce sont des gens qui voulaient faire carrière, qui ont fait fi de leurs idéaux, parfois républicains, parfois monarchistes, pour avoir une carrière politique, et on en paye les conséquences aujourd'hui. C'est ça, quand on n'a pas cette culture du terrain, quand on ne sait pas aller vers les gens, même des anciens élus socialistes qui sont passés à la Macronie, on en connaît un dans le Finistère qui a été sorti en 2022, qui avait peur d'aller distribuer des tracts, qui avait peur de se mobiliser pour son hôpital, et aujourd'hui, heureusement, la personne qui lui a succédé mène un formidable travail de terrain, eh ben, qui permet de sauvegarder les services publics à cet endroit-là. Et pour revenir sur votre question au sujet des collectivités territoriales, effectivement, la gauche a mené des lois de décentralisation dès les années 80. On a vu les changements.
Mais ils la étaient loi importants. De fer,
hein. Voilà. Et ils étaient importants, ne serait-ce que pour l'aménagement des littoraux. Ça permet quand même d'avoir une vision maintenant à long terme sur la montée des eaux. On pensera évidemment à nos chères côtes du Trégor, du Goëlo et du Penthièvre. Mais effectivement, les dernières lois de décentralisation, ça a été globalement sous François Hollande. On a donné des compétences supérieures aux départements, aux régions, aux collectivités territoriales. Malheureusement, les socialistes n'ont pas réussi à garder le pouvoir pour mener à bien, pour continuer à poursuivre ces réformes. Puis c'est la logique libérale qui a pris le pas sur une logique territoriale administrative avec une bonne répartition. Alors effectivement, il y a toujours des aménagements à mener. Mmh. Je vais vous dire, les cantons tels qu'ils ont été avant 2015, ils dataient grosso modo de 1789-1800. Et il y a eu des réformes depuis. Mmh. Voilà, tout ne se fait pas. Rome ne s'est pas construite en un jour. Il faut effectivement des adaptations territoriales. Mais là, on est passé de la création de nouvelles collectivités territoriales entre 2015 et 2017, des présidents, des maires qui sont laissés, allez hop, mmh. on vous donne le manuel, on vous donne le guide, c'est un petit peu comme monter un meuble Ikea, on vous donne les instructions, vous vous débrouillez si vous avez un problème, désolé, on fait pas de service après-vente. Mmh. Mais comment on fait? Vous vous débrouillez par vous-même. Et franchement, c'est inadmissible. Quand on voit ça, jamais que ce soit la gauche ou la droite, les deux grands partis qui faisaient jusqu'en 2017 qui bipolarisait la vie politique mmh. française, n'auraient jamais laissé leurs élus tout seuls, parce que justement, les gouvernants ont été des élus locaux avant. Mmh.
Voilà, il faut l'expérience du terrain pour pouvoir gouverner au plus haut niveau. On a les élections municipales qui vont arriver très vite, 2026 et demain. On a beaucoup de maires qui jettent l'éponge, qui n'ont plus envie de continuer ou qui ont eu un mandat qui, voilà, sont épuisés. Vous en parliez tout à l'heure, Maëlle Lepilouer, de ces maires qui sont un petit peu arrivés au bout de l'expérience. Est-ce que c'est inquiétant pour la démocratie locale lorsqu'on n'arrive plus à susciter de vocation à avoir des maires qui est le premier élu de terrain que l'on croise?
Et mais justement, l'abandon de poste des maires, qui est totalement compréhensif, est un danger pour la démocratie, littéralement. Si vous n'avez plus l'élu de terrain, que ce soit le maire, que ce soit les adjoints, que ce soit les conseillers municipaux, qui gèrent la vie locale, qui sont là, on connaît, on peut aller les voir facilement, on a un problème avec un voisin, généralement c'est le maire ou l'adjoint qui est à côté, qui vient régler le litige, on a besoin de subventions, on a des problèmes, par exemple comme c'est le cas pour les agriculteurs en ce moment, qui doivent faire face à des épidémies de maladies envers leurs animaux, le maire va pouvoir venir aider, l'accès à la culture, l'accès au sport, par des infrastructures communales, c'est encore le maire. C'est un réel danger.
Et on les charge trop, les maires, parce qu'ils se plaignent souvent d'avoir beaucoup de paperasserie administrative. Alors, dans les grandes villes, ça va, il y a des services pour ça, mais dans les petites communes où souvent le maire a juste un secrétaire ou une secrétaire de mairie, c'est pas toujours évident.
Ah non, 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 mais c'est, non, non, c'est pas, non, non, c'est pas évident. Et il faut aussi louer le travail remarquable que font les secrétaires de mairie qui se démènent justement pour mener à bien la gestion de la commune. Parce que généralement, comme vous le disiez, bah, dans les petites communes, la mairie n'est ouverte que la moitié de la journée parce que le ou la secrétaire de mairie est sur un mi-temps. Donc le matin, elle peut être dans une commune, l'après-midi dans une autre, moi voilà, pour travailler un petit peu en contact des d'archives municipales, c'est ce qui se passe. Mmh. On le constate, mais oui, effectivement, les tracasseries administratives maintenant, on passe des fois, par moment, le maire passe plus de temps à faire de l'administratif qu'à faire du terrain. Mmh. Il y a des normes en France qu'il faut respecter, mais il y a peut-être aussi trop de normes qui sont venues se rajouter et il n'y a pas eu de tri de fait à ce niveau-là, et ce tri il faudrait le faire, parce que on parle beaucoup des enseignants, il n'y a pas eu un enseignant forcément devant chaque classe, mais qui nous dit qu'en 2026 il y aura un maire devant chaque porte de mairie?
Voilà la question. La question se pose. Il nous reste 1 minute. Je voudrais vous entendre sur la visite présidentielle hier au Havre. Et vous voyez où je veux en venir. Oui. Le maire du Havre, un certain Édouard Philippe, a déclaré sa candidature très tôt pour 2027, pour la présidence de la République. Hier, il y a eu cette poignée de main chaleureuse entre le nouveau déclaré et l'actuel président de la République, Emmanuel Macron. Puis on a vu cette ferveur dans les rues. On a l'impression que l'image d'Emmanuel Macron n'a pas été écornée malgré la séquence politique très compliquée qu'on vient de vivre.
Vous savez, il y a ce qu'on montre en réel et ce qu'on ne montre pas. Pour parler d'Édouard Philippe, il y a une fameuse vidéo où on le voit réélu triomphalement à la mairie du Havre en gros plan, et quand on enlève le zoom, on se rend compte qu'il y a pas mal de monde en dessous qui sont en train de le vilipender. Mmh. Et quand on écoute les interviews qu'a pu mener Emmanuel Macron dans ses grands bains de foule, dans le style gaullien, mais De Gaulle, lui, avait une véritable aura politique. Emmanuel Macron n'en a pas. C'est pour ça, moi, quand j'ai vu que Emmanuel Macron se rendait au Havre, j'ai dit « Ah, le traître et le néant !» Finalement, d'une certaine manière. Parce que Édouard Philippe fait un petit coup à la Pompidou. On a imaginé que nous sommes en 1968. De Gaulle vient de sortir de la crise de mai qui a failli lui être fatale. Pompidou se déclare plus ou moins prêt à être président de la République. Enfin bon, pour schématiser, mais c'est ce qu'Édouard Philippe aussi attend. Il souhaite l'écroulement de la Macronie pour devenir président de la République.
Le recours, en quelque sorte.
Le recours, mais il faut aussi se pencher sur cette question du recours sur l'homme providentiel. Est-ce qu'on a envie d'avoir quelqu'un qui n'a pas su gérer correctement la crise des Gilets jaunes, la crise du Covid, président de la République, qui a, d'après ce que j'ai compris aussi, des soucis de gestion au Havre? Moi, personnellement, pour connaître un petit peu l'histoire, je sais qu'un certain Félix Faure a été maire du Havre à une certaine époque. Quand on voit comment il a fini, quand on voit son bilan présidentiel à la tête de la France, je m'inquiète pour celui d'Édouard Philippe.
Voilà, Félix Faure, une autre façon de faire de la politique, voilà. On pourrait en dire beaucoup. Un dernier mot, est-ce que la gauche est prête pour les prochaines échéances, les prochains combats, si vous me permettez ce terme un peu guerrier?
La gauche est prête à mener de nouveaux combats, mais pour cela, il faut avoir des discussions et un cap clair, comme dirait M. Glucksmann. Il faut avoir un cap clair, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national. Et de toute façon, face aux menaces qui nous guettent, la menace des extrêmes, l'extrême centre et l'extrême droite, il faut avancer unis, main dans la main. On a vu que le nouveau Front populaire avait suscité une certaine ferveur au niveau des populations. Maintenant, il faut transformer l'essai, il faut retourner sur le terrain, se retrousser les manches et labourer, semer et récolter.
Avec quand même la graine de l'extrême droite qui pousse beaucoup, il faut le dire.
Vous savez, quand on cultive un champ de patates, il faut être prêt à les cercler.
Donc il y a du travail.
Voilà, il faut s'armer d'une binette aussi.
Et nous étions ce matin avec Maëlle Lepilouer, secrétaire fédéral des jeunes socialistes costa-armoricains, en charge des idées et des événements, secrétaire également par intérim de la section de Guingamp-Paimpol. Merci d'être venu en direct au micro de la matinale pour commenter l'actualité politique qui s'annonce d'ailleurs forte en rebondissement les temps prochains, on l'imagine. Merci beaucoup, belle journée.
Merci.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.